Littérature-audio.com vous présente Les Fables d'Ésope, tome 1. Lu par Bruissement, Choriste, Carole, Gilles-Claude, Jean-Luc, Latiti, Pomme et Stanley.
Du dieu Mercure et d'un bûcheron. Un bûcheron coupant du bois dans une forêt sur le bord d'une rivière, il laissa tomber sa cognée. Dans le désespoir où il se vit après cette perte, ne sachant quel conseil prendre, il s'assit sur le rivage et se mit à pleurer amèrement. Mercure, qu'il aperçut, eut compassion de sa destinée, et ayant appris le sujet de sa douleur, il lui montra une cognée d'or et lui demanda si c'était la sienne. Le bûcheron répondit sincèrement qu'elle ne lui appartenait pas. Alors Mercure lui en montra une d'argent et lui demanda si c'était celle qu'il avait perdue. Il lui répondit avec la même bonne foi que non. Enfin Mercure lui en montra une emmanchée de bois et le bûcheron lui dit que celle-là lui appartenait. Le dieu, touché de la bonne foi et de la probité de ce pauvre homme, lui donna les trois cognées. Le bûcheron raconta à ses compagnons l'aventure qui venait de lui arriver. L'un d'eux résolut de tenter une pareille fortune. Il alla sur le bord de la rivière et laissa de propos délibérés tomber sa cognée dans le courant. Après quoi, il s'assit sur le rivage, jetant de hauts cris. Mercure se présenta devant lui, et ayant appris la cause de ses larmes, il se plongea dans la rivière, et après en avoir retiré une cognée d'or, il lui demanda si c'était celle qu'il avait perdue. Cet homme rempli de joie lui dit que c'était elle, en effet. Mercure, irrité de l'impudence de ce fourbe, ne lui donna ni la cognée d'or, ni celle qu'il avait jetée tout exprès dans la rivière.
D'un enfant et de sa mère. Un jeune enfant, ayant dérobé un livre à l'un de ses compagnons d'études, le donna à sa mère. Elle prit le livre sans faire aucune réprimande à son fils. Au contraire, elle l'embrassa et lui fit des caresses. Quand il fut devenu plus grand, il s'accoutuma à dérober des choses d'une plus grande conséquence. Ayant été un jour pris sur le fait, on le livra entre les mains de la justice et il fut condamné à mort. Sa mère le suivait en pleurant, tandis qu'on le conduisait au supplice. Il demanda permission au bourreau de lui parler en particulier. Elle approcha son oreille de sa bouche. Il la mordit et l'arracha à belles dents. Sa mère et tous les assistants se récrièrent et lui reprochèrent sa cruauté, lui disant qu'il ne se contentait pas d'être un voleur, mais qu'il avait encore commis une impiété à l'égard de sa mère. « C'est elle seule, répliqua-t-il, qui est la cause de mon malheur, car si elle m'eût fait de sérieuses remontrances, lorsque je lui portais la première fois un livre que j'avais volé, j'aurais discontinué de le faire, et je ne serais pas tombé dans le malheur où je me vois aujourd'hui. »
D'un homme qui avait deux femmes. Un homme, nourri dans les délices, et qui était encore dans la force de son âge, ni trop vieux, ni trop jeune, quoique ses cheveux commençassent déjà à grisonner, s'avisa d'épouser deux femmes, dont l'une approchait de la vieillesse et l'autre était encore dans la fleur de la jeunesse. Ils demeuraient tous trois dans la même maison. La plus âgée, voulant se faire aimer de son mari par la proportion de l'âge, lui arrachait poil à poil tout ce qu'il avait de cheveux noirs. La plus jeune, qui voulait aussi avoir part à la tendresse de son mari, lui arrachait de son côté tous les cheveux blancs. De sorte que ces deux femmes, en continuant chaque jour cet exercice, le rendirent entièrement chauve, et il devint la fable de tout le monde.
D'un laboureur et de ses enfants. Un laboureur, fâché de voir la dissension parmi ses enfants, et le peu de cas qu'il faisait de ses remontrances, commanda qu'on lui apportât en leur présence un faisceau de baguettes, et leur dit de rompre ce faisceau tout à la fois. Ils firent l'un après l'autre de grands efforts pour en venir à bout, mais leur peine fut inutile. Il leur dit ensuite de délier le faisceau et de prendre les baguettes séparément pour les rompre, ce qu'ils exécutèrent sans aucune peine. Alors il leur tint ce discours. « Vous voyez, mes enfants, que vous n'avez pu briser ces baguettes tandis qu'elles étaient liées ensemble. Ainsi, vous ne pourrez être vaincus par vos ennemis si vous demeurez toujours unis par une bonne intelligence. Mais si les inimitiés vous désunissent, si la division se met parmi vous, il ne sera pas difficile à vos ennemis de vous perdre. »
De la nourrice et du loup. Un loup tourmenté de la faim courait de tous côtés pour chercher quelque proie. Étant arrivé auprès d'une cabane, il entendit un enfant qui pleurait et sa nourrice qui lui disait tout en colère « Taisez-vous et si vous ne vous apaisez, je vous donnerai à manger au loup tout à l'heure. » Croyant que la nourrice parlait sérieusement, attendit longtemps auprès de la porte. Mais sur le soir, il fut bien étonné lorsqu'il entendit la nourrice caresser son enfant et qui lui disait en le flattant « Mon fils, si le loup vient ici, nous le tuerons. » Le loup se retira tout triste et dit en s'en retournant « Les gens de cette contrée agissent tout autrement qu'ils ne parlent. »
De la tortue et de l'aigle. La tortue, mal satisfaite de sa condition et ennuyée de ramper toujours à terre, souhaita devenir oiseau et pria très instamment l'aigle de lui apprendre à voler. L'aigle s'en défendit d'abord, lui représentant qu'elle demandait une chose contraire à son tempérament. Cependant, se laissant vaincre par les prières de la tortue, il la prit entre ses serres et l'enleva. Et l'ayant lâchée au milieu des airs, elle tomba sur une pointe de rocher, se brisa le corps et mourut de cette chute.
Les deux écrevisses. Une écrevisse faisait des leçons à une de ses petites pour lui apprendre à bien marcher. Elle lui reprochait qu'elle allait toujours de travers et qu'elle ne faisait aucun pas sans se détourner à droite ou à gauche. La jeune écrevisse ne fut pas fort touchée des remontrances de sa mère. Pour toute réponse, elle lui dit « Ma mère, marchez devant moi et je vous suivrai. »
De l'âne couvert de la peau d'un lion. Un âne, ayant trouvé par hasard la peau d'un lion, s'en couvrit le dos sur le champ et se para de cette dépouille. Les autres bêtes qui le virent dans cet équipage et qui le prirent d'abord pour un véritable lion en furent alarmées et se mirent à fuir de toutes leurs forces. Le maître, à qui appartenait l'âne, le cherchait de tous côtés et fut tout étonné quand il le vit déguisé de cette sorte. L'âne accourut vers son maître et se mit à braire. Sa voix et ses longues oreilles qu'il n'avait point cachées le firent connaître malgré son déguisement. Son maître le prit et le condamna à son travail ordinaire.
De la grenouille et du renard. Une grenouille ennuyée de son marécage voulut aller dans les forêts parmi les autres bêtes et faire publiquement profession de médecine, se vantant d'effacer, par les connaissances qu'elle avait en cet art, la science d'Hippocrate et de Galien. Les autres animaux la crurent d'abord sur ses paroles. Mais le renard plus fin et plus rusé se moqua d'elle et de son vain savoir. « Comment se peut-il faire, lui dit-il, qu'avec une bouche si pâle et si livide, tu connaisses tous les secrets de la médecine? Si cela est, pourquoi ne te guéris-tu pas la première ?» Ce trait de raillerie rendit la grenouille toute honteuse et détrompa les autres animaux.
De deux chiens. Un chien était tellement accoutumé à mordre tous ceux qu'il rencontrait que son maître crut être obligé de lui attacher au col une sonnette, afin que tout le monde s'en donnât de garde. Le chien, tout fier de ce nouvel ornement, s'imagina que c'était une récompense de son courage et de sa vertu, et se mit à regarder tous les autres chiens avec mépris. Il y en avait un parmi eux que son âge et ses services rendaient respectable. « Mon ami, lui dit-il, tu ne prends pas garde que cette sonnette est plutôt une marque de la méchanceté de tes mœurs que la récompense de ta vertu. »
Du chameau. Le chameau, croyant sa condition malheureuse de se voir exposé sans aucune défense à ses ennemis, pria très instamment Jupiter de lui donner des cornes, comme au taureau, pour lui servir en même temps d'ornement et de défense. Jupiter se moqua de la ridicule prière du chameau. Non seulement il ne lui donna pas les cornes qu'il demandait, mais même il lui accourcit les oreilles pour le rendre encore plus difforme.
De deux amis et de l'ours. Deux voyageurs, faisant chemin ensemble, aperçurent un ours qui venait droit à eux. Le premier qui le vit monta brusquement sur un arbre et laissa son compagnon dans le péril, quoiqu'ils eussent été toujours liés jusqu'alors d'une amitié fort étroite. L'autre, qui se souvint que l'ours ne touchait point au cadavre, se jeta par terre de tout son long, ne remuant ni pied ni main, retenant son haleine et contrefaisant le mort le mieux qu'il lui fut possible. L'ours le tourna et le flaira de tous côtés, et approcha souvent sa hure de la bouche et des oreilles de l'homme qui était à terre. Mais, le tenant pour mort, il le laissa et s'en alla. Les deux voyageurs, s'étant sauvés de la sorte d'un si grand péril et des griffes de l'ours, continuèrent leur voyage. Celui qui avait monté sur l'arbre demandait à son compagnon, en chemin faisant, ce que l'ours lui avait dit à l'oreille lorsqu'il était couché par terre. « Il m'a dit, répliqua le marchand, plusieurs choses qu'il serait inutile de vous raconter. Mais ce que j'ai bien retenu, c'est qu'il m'a averti de ne compter jamais parmi mes amis que ceux dont j'aurais éprouvé la fidélité dans ma mauvaise fortune. »
De deux peaux flottant sur l'eau. Le courant de l'eau entraîna par hasard deux peaux, dont l'un était de terre et l'autre de fer. Le pot de terre évitait avec de grandes précautions l'approche et la rencontre du pot de fer qui lui dit par une espèce de reproche « Qu'appréhendez-vous, je n'ai nulle envie de vous nuire, ni de vous faire aucun mal. » « Je le sais bien, répliqua le pot de terre, ce n'est nullement votre mauvaise volonté que je redoute. Mais si l'impétuosité de l'eau m'approche de vous, je suis perdu. Voilà pourquoi il vaut mieux que je m'éloigne pour me mettre en sûreté. »
D'un taureau et d'un bouc. Un taureau, vivement poursuivi par un lion, voulut se réfugier dans la caverne d'un bouc, qui se présenta fièrement à la porte et en refusa l'entrée au taureau. « Tu ne me recevrais pas avec cette insolence, » dit le taureau au bouc, « si le lion plus fort ou plus furieux que toi et moi n'était à mes trousses. Sans cela, je te ferais connaître à tes dépens combien les cornes du taureau sont plus dangereuses que celles du bouc. »
Du sage et de ses enfants. Jupiter fit un jour assembler tous les animaux devant son tribunal pour examiner lequel d'entre eux aurait de plus beaux enfants. Toutes les bêtes obéirent à cet ordre. Les oiseaux y vinrent, les poissons parurent hors de l'eau pour voir décider cette question. Le singe s'y rendit le dernier de tous. Toutes les bêtes, en voyant les fesses ridicules des petits singes, firent de grands éclats de rire. « Votre jugement, dit le singe, ne décidera pas en cette matière. C'est à Jupiter à déterminer. » Et c'est à lui qu'appartient de donner le prix de la beauté à qui le méritera le mieux. Je trouve dans mes petits tant d'agréments qu'il me semble digne d'être préféré à tous les autres. Jupiter même, avec tout son sérieux et toute sa gravité, ne put s'empêcher de rire lorsqu'il entendit ce petit discours du singe qui paraissait charmé de la beauté et de la bonne grâce de ses petits.
Du pain et de la grue. Le pain, étant dans un repas avec la grue, faisait la roue et tallait ses plumes avec beaucoup de faste. Il méprisait la grue et se mettait infiniment au-dessus d'elle. « Que tu es laide !» lui disait-il d'une manière insolente.
et que la beauté de mon plumage est agréable. Mais la grue, pour confondre la vanité du paon, se mit à voler et lui dit en l'insultant « Que je suis légère et que tu es pesant !»
Du tigre et du renard. Un chasseur armé de traits et de flèches qu'il lançait de tous côtés avec beaucoup d'adresse faisait à toute outrance la guerre aux animaux qui fuyaient devant un ennemi si redoutable qu'ils n'osaient tenir la campagne. Le tigre, plus fier et plus hardi que les autres, se présenta et promit de faire tête à lui seul à leur ennemi commun. Le chasseur lança avec raideur une flèche qui atteignit le tigre. Il se mit à jeter des hauts cris et à regarder de tous côtés pour reconnaître l'auteur de sa blessure. Le renard vint au-devant du tigre et lui demanda qui avait eu l'audace de blesser un animal si fier et si courageux. « Je ne sais !» répondit le tigre. « Mais je sens bien à ma blessure qu'elle vient d'un homme qui a beaucoup de force et de vigueur. »
Des taureaux et du lion. Quatre taureaux résolurent de se liguer ensemble pour leur conservation réciproque et de ne se séparer jamais les uns des autres pour être toujours en état de se secourir mutuellement. Le lion qui les voyait paître les uns auprès des autres n'osa jamais les insulter, quoiqu'il se sentît extrêmement pressé de la faim. Mais pour les vaincre plus aisément, il crut qu'il devait les séparer par de spécieux prétextes afin de les attaquer séparément. Cet artifice eut réussi et il dévora les quatre taureaux les uns après les autres.
Du sapin et du buisson. Le sapin, regardant avec mépris le buisson, se vantait de sa hauteur et de ce qu'on le choisissait pour être employé à la construction des palais des princes, à faire les mâts des plus grands vaisseaux, et il reprochait au buisson de n'être bon à aucun usage. Le buisson répondit modestement au sapin que les grands avantages dont il se vantait avec tant d'orgueil l'exposaient à de grands malheurs, car le bûcheron le met en pièces sans miséricorde et le jette par terre à coups de cognée, au lieu que le buisson vit en sûreté dans une condition plus obscure.
D'un pêcheur et d'un petit poisson. Un pêcheur, ayant pris un petit poisson, dont le goût est très agréable, résolut de le manger. Ce petit animal, pour se tirer des mains du pêcheur, lui représentait qu'il devait lui donner le temps de croître, et le priait très instamment de le relâcher, lui promettant de revenir de son bon gré, mordre à l'hameçon au bout de quelque temps. « Il faudrait que j'eusse perdu l'esprit, » lui répliqua le pêcheur, « si je me fiais à tes promesses, et si sous l'espérance d'un bien futur et incertain, je me privais d'un bien présent et assuré. »